Les lectrices, les lecteurs de Lire et Faire Lire, offrent aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute et belle découverte.
Moi, je vais vous présenter Gros Bec de Nicolas Digard, illustré par Thomas Bass pour les 5-7 ans aux éditions Glénat Jeunesse. Gros Bec, comme son nom l'indique, se trouve affligé d'un bec particulier et cela le fait souffrir. Jusqu'au jour où sa femme l'inscrit dans un concours de bec extraordinaire. C'est une histoire de différence et de manque de confiance en soi, mais pleine d'humour, malgré les teintes pastel de l'album. En tout cas, ne manquez pas la page du journal Petit Strasbourgeois. Et puis, ce que Strasbourg il y a, laissez-vous inviter par une cigogne de ligne, casquette comprise. Quand à notre grand Gros Bec, les regards étonnés des concurrents lui feront comprendre que ce bec qui le chagrine tant n'est rien que délicat. Pourtant, on ne se change pas du jour au lendemain si facilement. Et notre Gros Bec se découvrira une autre sorte de souci. Allez, lisez-le pour savoir. Comme tous les matins, Albert Gros Bec nouait sa cravate devant la glace. Et comme tout le matin, ce qu'il vit dans le reflet le fit déprimer. Qu'il est gros, ce bec. Il l'inspecta sous tous les angles, et plus il le regardait, plus il lui semblait gigantesque. Il pensa alors que tout le monde ne devait voir que ça lorsqu'on le regardait. Ce n'était pas l'oiseau convenable qu'on voyait, mais un bec. Il se réduisait à un bec, à un gros bec, comme le stipulait son nom de famille. Un bec énorme, disgracieux, monstrueux, dégoûtant. Il sortit de la salle de bain, les ailes basses. Solange Mésange, sa femme, le connaissait sur le bout des plumes. Elle vit tout de suite qu'Albert déprimait, et elle savait très bien pourquoi. Cette histoire de bec durait maintenant depuis des mois, et jusqu'ici elle était restée discrète. Mais à présent, elle était décidée à prendre le taureau par les cornes. « Albert, cette histoire a trop duré, moi je l'aime beaucoup ton bec, mais tu ne m'écoutes pas. Et j'en ai assez de devoir marcher sur tes œufs en permanence. » Sans attendre de réponse, Solange se précipita vers la commode du salon, ouvrit un tiroir et elle en sortit un journal qu'elle tendit à son mari. Quelques minutes plus tard, Solange et Albert étaient à l'aéronichoir de Strasbourg, où celle-ci le fit embarquer manu militari sur une cigogne de ligne en partance pour Port Moresby, où avait lieu le concours. Pendant le trajet, le cœur d'Albert battait la chamade. À Port Moresby, on trouvait les paradisiers les plus raffinés. Qu'allait-il donc faire dans ce concours de bec, lui qui l'avait si énorme, si disgracieux, si monstrueux, si dégoûtant? À peine arrivé, Albert Gros Bec se rendit au Parlement de Port Moresby. Au bout d'un couloir, il trouva une porte sur laquelle était écrit « Concours ». Il l'ouvrit, il passa timidement la tête dans l'entrebâillement. Plusieurs oiseaux lui tournaient le dos. « Bonjour, c'est ici le concours de bec ?» demanda-t-il. Albert était médusé. Jamais de sa vie, il n'avait imaginé que la nature puisse être cruelle au point d'infliger à de pauvres oiseaux des becs si extravagants. Ça alors, Ça alors, les ailes m'en tombent. Allez, je vais vous laisser découvrir la suite de l'histoire. Par contre, si vous êtes un peu curieux, moi je vous propose d'aller voir de Nicolas Digard un album complètement différent qui s'appelle Le Talisman du Loup. Un univers totalement différent qui s'adresse pour celui-ci plutôt à des 8-10 ans.
Pour enfants à partir de 10-11 ans peut-être. D'abord, nous sommes attirés par la couverture de ce grand album aux allures psychédéliques où figure un personnage aux vêtements aussi colorés qu'un arc-en-ciel. Il gratte une guitare, il nous rappelle un artiste. Et aussi, il y a ce titre, clin d'œil, où le mot « balade » avec deux L évoque un type de chanson particulièrement prisé par les 70s, mais on pense en même temps au mot « balade » avec un seul L qui, lui, évoque la promenade. La balade d'Ilias, d'Alex Cousseau, illustration de David Salah, aux éditions Casterman. On ne résiste plus à l'envie d'ouvrir le livre pour partir en voyage, probablement hors des sentiers battus. Le narrateur s'appelle Rouge. Rouge parce que sa robe est rouge. C'est un âne. Et c'est un âne qui est facteur. Je viens d'un pays au sommet des montagnes, à mi-chemin entre la lune et l'océan. Une terre sans arbres, balayée par le froid et le vent. Là-haut, les nuages coiffent les hommes. Le ciel entre dans les maisons. Rouge est mon prénom. Rouge, c'est la couleur de ma robe. Dans la sacoche que je porte sur le flanc se cache une enveloppe couleur de neige, avec dessus une écriture fine comme des pattes d'insectes. C'est une lettre adressée à celui qui vit dans la cabane de l'ours. Rouge trouvera, à l'adresse indiquée, Ilias, le destinataire de la lettre. Il est vêtu comme un hippie, c'est l'artiste de la couverture, la guitare à la main, il compose une chanson. Donc, l'âne tend la lettre à Ilias. À notre grande surprise, Ilias n'ouvre pas l'enveloppe que lui tend Rouge. Il ne sait pas lire. Et l'enfant que l'on voit à ses côtés, et qui ne sait pas lire non plus, laisse échapper de sa bouche des abeilles. Ilias dit qu'il est un rêve. Un rêve qu'il aurait fait une nuit, et depuis l'enfant ne le quitte plus. Oui, délibérément, l'auteur nous entraîne d'emblée dans une autre dimension. Faisons le choix de suivre ses rêveurs et partons avec eux. Rouge, Ilias et le garçon se mettent en route pour la vallée, où ils espèrent trouver quelqu'un qui saurait lire la lettre. L'âne aurait pu rebrousser chemin et rentrer chez lui, là, mais il a envie de savoir ce qui est écrit. Et nous aussi. Ilias me chevauche désormais. Il chantonne tout en chatouillant les cordes de sa guitare. On dit que les musiciens ont un pouvoir. C'est peut-être vrai. Quand j'entends la musique d'Ilias, j'ai l'impression que les arbres s'écartent sur notre passage, que les chemins s'élargissent. J'ai l'impression que le monde s'agrandit. Chemin faisant, Ilias fredonne en grattant sa guitare. L'enfant danse et vole avec les abeilles, libre et insouciant. Ils arrivent dans le jardin de Rose, une jolie femme qui semble troubler Ilias. Comme Rouge, elle pense que quand on entend sa musique, on a l'impression que les plantes poussent plus vite. Alex Cousseau nous parle de musique dans une langue poétique et les superbes illustrations de David Salah s'accordent à ses visions oniriques. Dans la luxuriance de la végétation, on imagine les chansons d'Ilias, son ode à la nature et à la paix. À partir d'indications données par Rose, Ilias entraîne Rouge. Ils doivent reprendre leur quête, traverser le fleuve. L'âne a toujours envie, terriblement envie, de savoir. Et nous aussi. La barque file au gré du courant. On entend le clapotis de l'eau, le murmure du vent dans les roseaux. Ilias prend sa guitare. Sa nouvelle chanson parle des rêves qu'on laisse derrière soi, de ceux qu'on partage et du bonheur qu'on échange, on reçoit. Je l'écoute. Cette fois, j'en suis certain, sa musique a vraiment un pouvoir. Les images sont des tableaux où de nombreux détails accrochent le regard et alimentent la rêverie. Aucun des personnages que rencontreront nos héros ne sera capable de lire la lettre, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la taverne du géant, dont le patron les incite à aller plus loin, vers l'inconnu. Ils repartent et se retrouvent seuls sur une plage. Ilias trouve à cette occasion une nouvelle source d'inspiration face à l'océan. Concentré, il fixe l'horizon, se laisse bercer par le chuchotis des vagues et une nouvelle chanson lui trotte irrésistiblement dans la tête. Une chanson capable d'apaiser les tempêtes, une chanson qui aurait le pouvoir d'endormir un dragon. Finalement, il importe peu de savoir ce que contient la mystérieuse enveloppe. Seul compte le chemin qui est pris et qui enrichit chacun par les rencontres qu'il procure. Surtout, elles nourrissent l'inspiration d'Ilias. Il compose ses ballades durant cette extraordinaire balade. Pour évoquer cette expérience initiatique, l'auteur et l'illustrateur nous offrent un splendide voyage en mots et en images. La symbiose est très séduisante. David Sala a illustré d'autres albums, notamment plusieurs titres de Jean-François Chabas, dont il sait faire chatoyer les pages et crée à chaque fois des décors fascinants. Il collabore aussi à des documentaires et il est par ailleurs auteur de bandes dessinées. Alex Cousseau, l'auteur, a signé de nombreux albums jeunesse et des romans pour ados et adultes. Il est souvent remarqué pour la poésie qui émane de ses textes, qu'il s'agisse d'albums, de romans d'aventure ou de contes. Sur la quatrième de couverture, apparaît à nouveau le personnage d'Ilias, dont la ressemblance avec le regretté John Lennon, chanteur du groupe anglais Les Beatles, interpellera les nostalgiques de la période. Cette version graphique du chanteur, sur le mode hippie, aurait, de l'aveu même de l'auteur, inspiré toute l'histoire à Alex Cousteau.
Les lectrices, les lecteurs de Lire et faire lire, offre aux enfants, enseignants et parents leur coup de cœur en littérature jeunesse. Voici des présentations d'albums ou de romans sélectionnés pour leur qualité bien sûr, mais aussi parfois pour leur originalité. Vous les retrouverez sur le blog de Lire et Faire Lire, https://lireetfairelire.laligue10.org, 10 en chiffres. Et sur le site de Thème Radio à la rubrique Podcast, bonne écoute. Et belle découverte !